Dans l'actualité de ce matin, aussi cette énigme, une énigme qui dure depuis ce 1er octobre où le corps de Stevan Marković, un Yougoslave de 31 ans, était découvert, ficelé dans un sac à Elancourt dans les Yvelines. Marković, c'était le secrétaire, c'était la doublure de l'un des playboys du cinéma français, Alain Delon.
Bonsoir, quand un fait divers fait trembler la République, quand un ancien Premier ministre, Georges Pompidou, se retrouve submergé par un torrent de boue et des rumeurs nauséabondes, quand une star française, Alain Delon, voit son nom cité dans un crime crapuleux et qu'une partie du showbiz défile dans le bureau du juge. 50 ans après, l'affaire Marković, du nom de Stevan Marković, un petit voyou yougoslave assassiné à l'automne 1968 près de Paris, cette affaire suscite toujours supputations, interrogations, interprétations. Aujourd'hui encore, elle se présente comme l'un des dossiers criminels les plus opaques, les plus tordus, pourrait-on dire, jamais traités par la police et la justice française. Une longue enquête derrière laquelle se profilent des hommes politiques, des figures de la pègre et des agents des services secrets. À qui devait profiter la mort de Stevan Marković, homme de main et homme à tout faire? Qui l'a tué et surtout pourquoi? Avec nos invités, nous allons ce soir remonter le fil de l'affaire Marković, suivre les méandres les plus sombres de cette histoire qui n'a livré à ce jour qu'une part infime de ses secrets.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Marković, la mort d'un voyou de second plan qui va transformer en scandale d'État, affaire qui commence à l'automne 1968 dans une décharge publique des Yvelines. Ce 1er octobre 1968, alors que le jour vient à peine de se lever, un ferrailleur arpente la cavée du roi. Une ancienne carrière d'Elancourt reconvertie en un terrain vague qui sert de dépotoir à toutes les communes du secteur. L'homme est venu en camionnette récupérer des métaux, mais son œil est attiré par un étrange paquet balancé dans une cavité et resté accroché à des buissons. Une forme enveloppée dans une housse en plastique et une autre en toile de jute. Le ferrailleur a un désagréable pressentiment. Confirmé dès l'ouverture du paquet, à l'intérieur, le corps d'un homme en costume sombre, la tête ensanglantée. La police judiciaire de Versailles est rapidement sur place. Le commissaire Jean Sanson n'a pas de difficulté à établir l'identité de la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'un certain Stevan Marković, 31 ans, célibataire, réfugié politique depuis 10 ans en France et bien connu des tribunaux. C'est un délinquant notoire, un homme de main, sans envergure, plusieurs fois condamné pour des vols, des violences, de menus escroqueries. De toute évidence, il s'est retrouvé dans une combine qui est allée trop loin. Il a payé de sa vie ses mauvaises fréquentations. Seul détail particulier qui retient l'attention, Stevan Marković est domicilié au numéro 22 de la rue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris, l'hôtel particulier de l'acteur Alain Delon, dont il est le secrétaire particulier. L'enquête ne fait que commencer. Rien n'annonce que ce règlement de compte va bientôt être un cataclysme. L'autopsie indique que la mort remonte sans doute à la nuit du 22 au 23 septembre. Les légistes concluent très rapidement que Marković a succombé à des coups donnés à l'arrière du crâne, sans doute avec ce qui ressemble à un cendrier. Les policiers sont circonspects. Ils s'étonnent que la victime, athlétique, jeune, sportive, ait pu succomber à de simples coups. Ils s'interrogent encore sur l'absence d'analyse toxicologique. À leurs yeux, le rapport d'autopsie est bâclé, incomplet. Il leur faudra 3 semaines pour que les docteurs Lecoeur et Bailly de l'Institut médico-légal de Paris établissent que Marković a été tué par une balle de calibre 6.35 visible après une simple radiographie, un calibre couramment utilisé dans le milieu. La mort de l'intéressé ainsi présentée est beaucoup plus conforme à sa réputation. Les policiers apprennent très vite que Stevan Marković a été vu vivant pour la dernière fois le 22 septembre vers 19h devant l'hôtel particulier de l'avenue de Messine. Il a embarqué dans un taxi où se trouvait déjà un passager, direction le quartier de Montmartre. Bonsoir Dominique Labarrière.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Vous êtes journaliste indépendant et auteur du livre « Quand la politique tue » aux éditions de la Table Ronde. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation, parce qu'effectivement là, est-ce que la politique tue? On va essayer de le déterminer. Et de le savoir. Alors là, on est aux toutes premières heures de l'affaire Markovitch. Tout va évidemment se précipiter et on va en parler longuement dans cette heure du crime. On va rester, si vous voulez bien, sur cette scène de crime. La mort d'un voyou, c'est presque le titre d'un film, on pourrait dire. Hein. Qui est Dominique Labarrière? Qui est Stéphane Markovitch? Qu'est-ce qu'on sait de lui?
C'est un playboy raté. C'est un acteur raté. C'est un voyou raté, c'est tout ce que vous voulez, il accumule toutes les choses, toutes les erreurs. Il y avait une erreur à pas commettre d'ailleurs dans sa vie, c'était de devenir l'amant éphémère de Nathalie Delon. Ça, ouais. Quand on est employé par Alain Delon, on essaie de pas avoir ce genre d'aventure, ce qui l'a complètement discrédité, c'est bien le moins, auprès d'Alain Delon. Il est resté logé là, c'est assez étrange, mais il est resté
dans l'hôtel particulier
ouais. d'Alain Delon. Et c'est, comme il n'a pas d'envergure, comme il comprend pas bien ce qui se passe, il ne sait pas quand, jusqu'où il va trop loin, et il va commettre un certain nombre de choses qui va le rendre absolument abject, irrespirable pour plein de gens, on va le découvrir.
Alors c'est quelqu'un qui, c'est ça, il a un gros casier judiciaire, Markovitch, hein, il a dit depuis 10 ans en France,
oui.
Il est beaucoup plus délinquant que réfugié politique, on peut le dire comme ça,
oui.
Hein, on peut dire qu'il trempe dans plein de magouilles, et ce que vous dites est intéressant, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est détesté par beaucoup de monde.
Oui, il y a un faisceau de détestation autour de lui qui desservira l'enquête du juge d'instruction, mais qui servira ses assassins.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Bonsoir Jean Guinel.
Bonsoir.
Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en ligne et en direct ce soir dans cette émission, journaliste et auteur, notamment parce que vous en avez écrit tellement, Jean Guinel, qu'on s'y perd, mais auteur du livre Histoire secrète de la DGSE aux éditions Robert Laffont. Et on verra peut-être que les services secrets ont joué une partie dans cette espèce de jeu un peu pervers autour de l'affaire Markovitch. Je voudrais que vous complétiez, Jean Guinel, un petit peu le portrait qui vient d'être fait. De la victime, de ce Markovitch, réfugié politique, on est en 68. On va un peu fantasmer sur les liens possibles de cet homme avec des services secrets étrangers notamment, ou pas?
Oui, avec les services secrets yougoslaves, c'est-à-dire... Mais quand on regarde ce dossier, on voit surtout que c'est un gars qui navigue entre le gigolo, le trafiquant, le petite magouille, les grosses combines, et puis cette relation quand même importante avec Alain Delon, avec lequel, à l'époque, lorsqu'il meurt, il est bien fâché, c'est-à-dire il l'a fait apparaître dans un film avec un kimono qu'il lui avait offert, mais qu'il avait volé dans un hôtel. Enfin bon, c'est-à-dire, c'est vraiment le type pas recommandable et qui sent pas très bon de toute façon. Comme voilà, qu'est-ce qu'Alain Delon faisait avec cette bande, parce qu'il n'était pas tout seul, il y avait d'autres gens autour de lui qui avaient été qui chauffeur, qui garde du corps, qui voilà, il était mal entouré.
Bien sûr, ce n'est pas faire offense à Alain Delon, qui a toujours revendiqué peut-être pas une fascination, mais en tout cas une amitié pour certaines personnes du milieu. On va en voir d'autres, et effectivement, dans cette affaire. Peut-être un mot, Dominique Labarrière, justement, sur les liens avec Delon, etc.
Les liens avec Delon, ils sont quand même assez étranges. Parce qu'il y a un fait qui était apparu quelques années auparavant. Il y a un précédent secrétaire et homme à tout faire yougoslave d'Alain Delon, qu'on a retrouvé mort à New York.
Le précédent, vous voulez dire.
Le précédent, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a autour, il y a un petit monde yougoslave autour d'Alain Delon. On ne sait pas très bien ce qu'ils font là, mais il y a une espèce de vertige. Je n'ai pas insulté Alain Delon de dire ça.
Bien sûr.
Il est jeune à l'époque. Et il y a une espèce de vertige, d'attirance pour ce monde entre deux mondes, pour les hommes, comme on dit dans le milieu. Il aime bien fréquenter ce qui est à la limite, ce qui est à la bordure. Quoi, voilà.
C'est ça. Il a d'ailleurs parfois revendiqué même. Hein,
oui, c'est ça. Voilà.
Une espèce d'attraction comme ça, de ce qui est un petit peu sombre, un petit peu noir, et qui peut d'ailleurs également se retrouver dans ses films. Alain Delon va évidemment être entendu, premier soubresaut d'une déflagration qui ne va cesser de s'amplifier. Markovitch va être présenté comme un homme qu'il fallait à tout prix empêcher de parler. Le 8 octobre 1968, l'inspecteur du SRPJ de Versailles, Maurice Amard, est à Saint-Tropez pour y interroger Alain Delon. L'acteur est alors en plein tournage du film La Piscine de Jacques Deray avec Romy Schneider comme partenaire. Il ne fait aucune difficulté à répondre aux policiers et n'élude aucune question. Il reconnaît que Stéphane Markovitch faisait partie de ses amis, un délinquant qui l'avait aidé à sortir de prison et remis sur le droit chemin. Pour éviter qu'il ne retourne derrière les murs de la santé, il lui avait même trouvé un travail de secrétaire particulier et d'homme à tout faire. Il lui avait également procuré un logement. Fin août, leur relation s'était assombrie. L'acteur avait été informé d'une liaison entre Markovitch et son épouse Nathalie, avec qui il était en instance de divorce. On s'est disputé avec Stevan. Je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, mais je n'ai pas voulu le jeter à la rue et il a continué à habiter avenue de Messine, témoigne l'acteur. 3 jours avant cette première audition, le SRPJ de Versailles a reçu la visite du frère de Stevan Markovitch, qui a remis 3 lettres que celui-ci lui avait adressées avant de mourir. Elles sont traduites du serbo-croate. Markovitch se dit menacé. Dans l'une d'elles, il écrit « Quoi qu'il advienne et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, il faudra chercher du côté d'AD, les initiales d'Alain Delon, et de son associé François, Marc, Anthony, 3 prénoms. Un Corse, est-il écrit, un vrai gangster. » Même si le nom de ce François, Marc, Anthony est mal orthographié, la police n'a pas de mal à identifier sous ce patronyme un truand de haut vol, ex-braqueur, officiellement retraité, le dénommé Marc-Anthony François, 48 ans. Marc-Anthony est un proche d'Alain Delon. Les deux hommes se connaissent depuis des années, à une époque où l'acteur faisait tout juste ses premiers pas au cinéma. Amitié, sans doute sulfureuse, mais revendiquée par Delon. De là à imaginer que l'acteur jaloux aurait fait tuer Markovitch par l'entremise de son ami truand, certains journaux prennent un malin plaisir à le sous-entendre. Une campagne de rumeurs et de ragots enfle. Delon est à nouveau réentendu. Nathalie Delon également auditionnée, ainsi que Mireille Darc, qui depuis quelque temps partage la vie de l'acteur. Les journaux commencent à faire les choux gras de ce crime qui éclabousse l'une des plus grandes stars françaises. Celui-ci publie un communiqué où il indique ne pas regretter avoir aidé son ami Stevan Markovitch quand il était dans l'ennui. Il ne l'a plus revu depuis le 8 août. Ensuite, il était, dit-il, en tournage. François Marc-Anthony, questionné, dément toute implication. À sa sortie, il est placé en garde à vue pour une histoire de stup de la fausse héroïne. Histoire qui pourrait avoir un lien avec le dossier Markovitch. Mais il est remis en liberté le soir même. Jean Guinel, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous êtes en ligne ce soir en direct dans cette émission. Alors il y a ces rumeurs évidemment qui bruissent et qui ne vont cesser d'enfler et d'ailleurs se déplacer sur le terrain politique, on va le voir dans le prochain chapitre. Je voudrais, Jean Guinel, que vous nous disiez, il y a ces fameuses lettres, les 3 lettres de Markovitch qu'il écrit à son frère. On peut dire qu'elles arrivent à point nommé, ces lettres. Elles sont très précises. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'elles sont authentiques?
Ben, on ne sait pas. C'est très compliqué. Dans toute cette affaire, vous évoquez des faits qui sont indiscutables. Mais on n'est pas encore arrivé au cœur du volcan.
Bien sûr.
On va y arriver, mais Dans toute cette étape pour aller au cœur du volcan et pour fabriquer une affaire, on va arriver dans des supputations, dans des accusations, dans des fausses preuves, dans des voilà. C'est-à-dire, pour l'instant, on est en terrain solide. Après, ça devient beaucoup plus compliqué.
Après, c'est plus friable après, effectivement. Oui.
Ben, et puis surtout, après cette affaire puante qui est une affaire politique. C'est-à-dire, il faut l'analyser comme une affaire politique. Le côté de long showbiz, crapulerie de la pègre, c'est un peu à côté du sujet. Le sujet fondamental, bien ce sûr. Qui va faire l'affaire, c'est la politique.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, on va y venir, Jean Guinel. Évidemment que c'est le cœur, comme vous le dites très bien, c'est le cœur du volcan. Là, c'est là où tout se passe et qui va bouillonner d'un seul coup. Alors, et pourquoi, selon vous, Jean Guinel, alors je sais que c'est des questions difficiles, parce que là, on joue avec les apparences, avec les doutes, etc., et sans doute avec les mensonges, mais sait-on pourquoi Stevan Markovitch désigne comme cela Delon, en disant s'il y a des ennuis, bah, allez voir du côté de chez Delon, on le sait ça ou pas?
C'est-à-dire on peut comprendre que Delon c'est l'énorme personnage de l'époque, c'est-à-dire c'est de mettre en cause c'est la garantie d'avoir une affaire considérable, et puis peut-être d'éloigner les regards du cœur du sujet. Delon il y a eu des enquêtes, il n'a pas été concerné directement par ce qui s'est passé. Donc il y a beaucoup de, dans cette affaire, il y a beaucoup de coups à double bande, à triple bande.
Et oui,
qui sont les masterminds derrière? C'est ce que vous allez nous expliquer.
Et bien sûr, et nous allons évidemment révéler leur nom et leur visage. Je n'en doute pas une seconde. Non, ce que vous nous dites, Jean Guinel, est très intéressant parce que ça veut dire que c'est des écrans de fumée qui sont disposés finalement, c'est ça?
Oui.
On avance, on pose un écran de fumée, on regarde dans quelle direction ça part et puis finalement, peu à peu, tout ça va se dissiper et on va avoir un autre paysage de l'affaire.
Absolument.
C'est ce que vous nous dites ce soir. Dans l'heure du crime, Dominique Labarrière, vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime, notre deuxième invité, journaliste, auteur du livre, je le rappelle, Quand la politique tue, aux éditions de la Table Ronde. Dites-nous très simplement, qui est ce Marc-Anthony?
Alors, on n'est pas encore dans l'affaire politique. L'affaire Markovic, c'est une affaire à tiroir, c'est des opportunités qui se sont ouvertes. On est passé d'un cadavre, ça pourrait être un fait divers, sordide, au showbiz. Du showbiz, on va accéder à la politique. À chaque fois, il y a des personnages qui intègrent ce feuilleton qui se déroule en essayant de l'exploiter pour arriver à une tentative de déstabilisation politique. Mais on n'y est pas. On n'est pas dans un complot. On est dans des faits divers qui vont être détournés pour en faire un complot. Marc-Anthony, il est le lien avec la politique. Marc-Anthony, il est...
pas n'importe qui,
Mais c'est le type même qui peut séduire Delon. C'est un ancien résistant, et pas des moines, Marc-Anthony. Il a un passé de résistant. Il a la réputation d'avoir tenu bon devant la Gestapo, et il a tourné dans le banditisme. C'est pas le seul à l'époque. C'est pas le seul. Il est plus ou moins lié avec le SAC, le service d'action civique.
Oui.
Donc il est le lien avec le monde politique. Mais c'est un vrai mafieux. Il fait pas les choses à moitié. C'est pas. Il dit lui-même, quand il est très embêté avec cette histoire-là, il a ce mot formidable. Il dit, si moi je m'étais occupé de Markovic, du gazon aurait repoussé dessus depuis longtemps et on n'aurait jamais retrouvé le corps.
Ça a le mérite d'être clair.
C'est pas faux. C'est-à-dire que c'est à chaque fois on croit tenir dans ce dossier-là. C'est un dossier qui fait plus d'une tonne, le dossier de l'affaire Markovic. C'est des milliers de cotes. À chaque fois qu'on croit tenir quelque chose, ça fuit, ça s'échappe. C'est génial, c'est l'affaire géniale. Il y a tout, comme vous le disiez. Il y a la politique, il y a le showbiz, il y a le sexe, il y a tout ce qu'on veut dans cette affaire-là.
Et
Marc-Anthony, il navigue dans tout ça.
Et on procède par étapes, évidemment. Alors, je parlais dans le récit très bref que j'ai fait, je parlais de cette histoire de la fausse drogue, fausse héroïne. Hein, à l'époque, c'est vrai que c'est une histoire qui existe.
Oui.
Et on va essayer d'impliquer Marc-Anthony, de le coincer, finalement. Ça ne va pas marcher. Il va être libéré. Libéré le soir même. On peut peut-être imaginer que ce Markovic, finalement, il trempait dans ce dossier de fausse drogue et qu'il a été tué pour ça, que ça n'a rien à voir avec Delon ou qui que ce soit.
Mais c'est possible. Tout est passé. Vous savez, le sketch de Fernand Reynaud, pourquoi tu tousses, c'était pas du bicarbonate, c'était la fausse drogue, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait passer, je crois, du bicarbonate pour de l'héroïne. Enfin, ils ont essayé. Attendez, faut quand même être un peu débile pour se lancer là-dedans. C'est pour ça que ça ressemble à Markovic. Markovic, vous parliez des lettres. Je suis l'hôte d'Alain Delon. Je vais pas écrire à mon frère pour dire Alain Delon va me faire des misères. Ou je me tire, je
c'est
déménage.
Une question.
Je mets de la distance entre eux. Il y a des choses comme ça qui ne tiennent pas la route. Et heureusement que le juge Patard, qui est le juge d'instruction de cette affaire-là, ne rentre pas dans toutes ces manipulations qui sont parfois extrêmement grossières. Les lettres, moi, je sais pas si elles sont vraies. J'ai pas l'impression qu'elles soient authentiques, ces lettres-là.
Avec cette affaire à tiroir, ce fait divers mis en lumière par le nom célèbre d'une star de cinéma, la presse bouillonne. Les journaux vont alors égrener les pages vraies ou fausses des carnets de Markovic, où apparaîtraient des noms de personnalités haut placées, friandes d'orgies et de jeux sexuels en tout genre. Le 17 octobre 1968, moins de 10 jours après le meurtre de Stevan Markovic, l'hebdomadaire d'extrême droite Minute publie une double page barrée de ce gros titre. L'ami des vedettes négociait très cher des photos compromettantes. L'article évoque des soirées d'un genre un peu spécial dans une villa des Yvelines. Le défunt Markovic serait l'entremetteur de ces soirées qui ne sont en fait que des orgies, des parties fines où les notables aiment s'encanailler. Parmi les participantes, il y aurait même la femme d'un homme politique. Les autres titres de la presse ne sont pas en reste. François évoque les carnets annotés et photos compromettantes qui auraient été découverts lors de la perquisition dans la chambre de Markovitch. Des adresses de gens du milieu, est-il écrit, voisines avec celles de vedettes, de personnalités du monde du théâtre et du cinéma. En plus d'Alain Delon, un défilé de célébrités du showbiz, Nicoletta, Marie Laforêt, le chanteur Guy Béard ou encore le réalisateur Jean-Pierre Melville vont être entendus. Le journal Le Monde parle alors de la promesse d'un scandale. Fin octobre, le juge René Patard, chargé du dossier Markovitch, se voit remettre une lettre interceptée par l'administration pénitentiaire. Elle est adressée à Alain Delon et signée d'un détenu de Fresnes, un Yougoslave nommé Boribos Akov. Lettre écrite en français alors que cet homme de 25 ans connaît à peine cette langue. Il dit à Alain Delon qu'il compatit après la mort de Markovitch. L'inspecteur Georges Manceau entend alors le détenu dans sa prison. Celui-ci fait des révélations fracassantes. Il confirme les parties fines organisées par Markovitch et les photos qui auraient été prises pour faire chanter les participants. Il aurait accompagné son compatriote dans une villa de Montfort-l'Amaury lors d'une partouze où s'est battue une femme célèbre, ni plus ni moins que l'épouse de l'ancien Premier ministre, en l'occurrence Claude Pompidou. Épouse de Georges Pompidou. Propos totalement invérifiables, tellement énormes qu'ils sont notés en marge du procès-verbal. L'inspecteur Manceau avertit son supérieur, le commissaire Sanson, lequel n'hésite pas à faire forcer le bureau de son subordonné en son absence pour s'emparer de ces notes manuscrites et les transmettre au ministre de l'Intérieur, lequel va communiquer ces informations explosives au garde des Sceaux, puis au Premier ministre, qui en informe le président de la République en personne, le général de Gaulle. En un mois, la mort du petit truand Markovitch ouvre la porte à un scandale d'État. Jean Guinel, en ligne ce soir dans l'heure du crime, journaliste et auteur du livre « Histoire secrète de la DGSE » aux éditions Robert Laffont, et qui connaît bien les dessous aussi de cette histoire. Je vais vous poser la question tout à l'heure, savoir si les fameuses premières lettres de la victime Markovitch à son frère étaient authentiques. Alors là, évidemment, il y a la suite. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux détenu qui est à Fresnes. Alors lui qui balance absolument tout. Et c'est quoi cette histoire avec ce Boribos Akov? D'où sort-il cet homme, ce Yougoslave?
C'est un de la bande dont on a parlé. La question, c'est d'où il sort ses infos, puisqu'on saura... On saura après que elle ne, enfin, pourquoi est-ce qu'il diffuse ça? Puisqu'on saura après que c'est une construction qui ne repose sur rien. Le propriétaire de la villa dira qu'il a, dans laquelle soi-disant les partouzes se produisent, dira qu'il s'est jamais rien passé. Il sait pas la décrire quand on lui demande. Il y était pas, quoi. C'est-à-dire, vous avez parfaitement insisté sur le fait qu'il y a une rumeur, les rumeurs qui commencent à circuler à partir de ces éléments qui circulent, mais les photos, on les voit pas, et si on les voit, ce sont des fabrications. Ça n'a jamais été Madame Pompidou. C'était.
On verra qu'effectivement, ce sont des grossiers faux, enfin, etc.
Des montages. Ce qu'on faisait à l'époque, aujourd'hui on fait ça avec des logiciels spécialisés, c'est beaucoup plus efficace, mais à l'époque on découpe avec des ciseaux et on pose une tête sur le corps d'une personne qui a accepté d'être photographiée.
Effectivement un peu minable. Jean Guinel, encore...
Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette affaire, vous avez très bien décrit le processus. Ministre de l'Intérieur, ministre, le SDEC, ça passe aussi que ça commence à circuler par la base du SDEC à Paris, ça va au
ministère. Le SDEC, dites-nous en un mot, le SDEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, c'est-à-dire c'est
c'est l'appellation de l'époque de la DGSE, qui dispose à Paris, dans les locaux des Invalides, d'un espace des bureaux dans lequel est installé ce qu'on appelle le service 6, ou la base Bison. C'est le petit service du SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, qui traite à Paris notamment les chefs d'État des anciens pays colonisés par la France qui sont devenus indépendants, qui traitent des voilà, quand ils passent par Paris, la base Bison les surveille, s'occupe d'eux, leur fournit les choses dont ils ont besoin ou les personnes dont ils estiment avoir besoin. Et voilà, c'est une officine des services secrets. Cette officine là reçoit un jour une informatrice qui a le pseudonyme de Caramel, qui s'appelle en fait Kamenka, et qui apporte des éléments sur ces partouzes. La base Bison fera un rapport, et c'est à partir de ce rapport que les choses vont circuler. Le problème qui va provoquer la crise politique, c'est que l'ancien Premier ministre n'est pas prévenu.
Venir, Jean, à ça.
Oui.
Effectivement, on va venir après avec le plus stricto sensu sur Georges Pompidou et ce couple qui va être dans la tourmente. Je voudrais avoir quelques mots de Dominique Labarrière. Là, ce que dit Jean Guinel, il pose parfaitement le problème. C'est-à-dire qu'on arrive au cœur du volcan. Là, tout le monde se met en place. Les politiques, la chaîne politique est avertie de ce scandale. Tout le monde se tait. On est d'accord. Mm-hmm. Les services secrets sont dans la boucle, le grand banditisme aussi.
Oui, alors, sur la lettre là, de ce Yougoslave de la prison, il faut bien dire qu'il y a les notes écrites du commissaire qui disent, avec le détail que vous donnez, mais que les procès-verbaux ne reprennent pas. C'est-à-dire que dans les procès-verbaux, il est beaucoup plus prudent, ce prisonnier. Donc déjà, on sait qu'il ment dans la lettre. Ça, c'est établi, c'est clair.
Et d'ailleurs, le policier, l'inspecteur Manceau, lui, il doute. Hein, oui, il dit « j'ai affaire à un affabulateur ».
Voilà. Et la photo. Alors, les photos, elles sont grossières. Il y a deux sortes de photos. Elles sont grossières. Mais ça n'a pas d'importance qu'elles soient grossières. Vous comprenez bien, on entre dans une affaire de déstabilisation politique. On n'est pas là pour avoir des pièces vraies. On est là pour que des articles de journaux disent, il y a des partouzes, Madame Pompidou y a participé, et on a des photos. Mmh. Que ces photos soient authentiques ou pas, faut dire, on a des photos. C'est comme avec l'affaire du dîner, on en parlera peut-être, du fameux dîner Alexander Markovic prétend avoir eu chez les Delon. C'est pas important que ça ait eu lieu ou pas, ce qu'il faut, c'est que ça soit dans la presse. Pourquoi on sort Madame Pompidou et pas une autre? Je peux permettre ma petite minute féministe là, parce qu'en 50 ans, on oublie d'une chose, il y a deux victimes, il y a Markovic. Mais il y a Madame Pompidou, parce que le tombereau d'ordures, c'est elle qui l'a pris. Mmh. On l'a fait passer pour une partouzeuse, pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est la femme politique de la Ve République, la première qui apparaît véritablement médiatique. Avant, on a quoi ? On a qui, pardon ? C'est Yvonne de Gaulle. Avant, c'était Madame Coty. On n'est pas dans le glamour. Madame Pompidou, elle a un tort. Elle est assez belle femme. Elle est blonde Hollywood. Elle s'intéresse à la mode. Elle fréquente des artistes.
Elle incarne la modernité.
Il y a une photo d'elle en 65. On la voit se faire la bise avec Guy Béard. Un chanteur, Guy Béard, la saltimbanque. En 65, on se fait pas la bise comme dans les années 2000. Hein. Ouais. Donc, tout ça, ça crée la coupable idéale. Une femme qui est libérée ne peut être dans la mentalité sexiste que aussi libérée sexuellement. Donc, on a, pardon pour l'expression, mais on a la salope de service idéale. Donc, voilà, on fabrique cette chose-là. On va la fabriquer. Peu importe que les pièces qui servent à fabriquer soient fiables ou pas. Il faut déstabiliser Georges Pompidou. C'est ça le but. Quant aux ministres qui ne parlent pas ou qui retiennent l'information pour eux, il faut les comprendre. Georges Pompidou n'est plus le Premier ministre depuis le mois de juillet. Il a donné sa démission, comme c'est l'usage, au général de Gaulle. Le général de Gaulle l'a remercié. Et ils sont un peu en froid. Les ministres disent, si on soutient Pompidou, on va contrarier de Gaulle. Donc ils hésitent, c'est des politiques, hein.
Georges Pompidou va effectivement tomber des nues en apprenant que son nom et surtout celui de son épouse apparaissent dans cette nébuleuse affaire Markovic. Il dira n'avoir pas songé une seconde à sa carrière, mais avoir tout fait pour protéger Claude Pompidou des attaques et des rumeurs. Le juge Patard, qui supervise les investigations, a bien du mal à travailler sereinement. Le parquet général et le ministère de la Justice s'intéressent à toutes les informations qu'ils pourraient recueillir. Le SRPJ de Versailles et le 36 quai des Orfèvres, brigade mondaine et brigade criminelle, sont soumis à la même curiosité venue du sommet de l'État. Sur le strict plan judiciaire, le magistrat a lancé le 16 janvier 1969 un mandat d'arrêt contre François-Marc Anthony. Il est convaincu de son implication dans le crime. Marc Anthony est alors arrêté, inculpé de complicité d'assassinat et écroué. Le truand dément toutes les accusations. La suite semble toutefois donner raison au juge. À force d'obstination, les policiers ont remonté la piste de la double housse en plastique et en toile de jute, ayant servi à emballer le corps de Stevan Markovitch. Une double housse fabriquée par la maison Treka, du très haut de gamme, destiné à une clientèle fortunée. Il y a eu exactement 865 articles de ce genre vendus entre 1967 et septembre 68, juste avant l'assassinat. La liste des clients est épluchée. L'un d'eux n'est autre que le truand François Marc-Anthony. Le 16 avril, le juge ordonne une perquisition dans la villa de Marc-Anthony à Goussainville, à 34 kilomètres de la décharge où a été retrouvé le corps. Un matelas neuf de la marque Treka se trouve bien dans une chambre, mais la housse a curieusement disparu. Marc-Anthony dit tout ignorer de ce qu'elle est devenue. Il reste sur ses positions et n'en changera pas. L'arrestation de François Marc-Anthony, réduisant l'affaire Markovitch à un règlement de compte dans le milieu, ne parvient pas à désamorcer les rumeurs et les accusations visant le couple Pompidou. Le 4 mars, l'un des avocats de François Marc-Anthony, maître Étienne Secaldi, demande l'audition de Claude et Georges Pompidou. Une nouvelle fois, cette demande fait la une des journaux. Un air est d'autant plus vicié dans cette affaire qu'une antenne du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, les services de renseignement français, aurait été à la manœuvre pour produire des montages photos mettant en scène Claude Pompidou, défaut destiné à nuire au couple présidentiel. Cette équipe du STEC, baptisée Bison 6, aurait même demandé à un policier de l'anti-gang, Lucien Aimé Blanc, l'un des hommes qui traquera plus tard Mesrine, de trouver une grande femme blonde, la quarantaine, style grande bourgeoise, pour poser pour des photos. Certains clichés circuleront effectivement dans Paris, déposés notamment à des arrêts de bus. Des faux obscènes et grossiers, un montage effectué à partir d'une revue porno suédoise. Le visage de Claude Pompidou étant collé sur celui d'une protagoniste. Jean Guinel, vous qui connaissez parfaitement les services secrets et de renseignement, auteur d'ailleurs de l'histoire secrète de la DGSE, et notre invité ce soir dans le du crime. Alors là, on a le sentiment que ça va quand même très loin, l'implication du SDEC. Je ne fais que citer les mémoires de Lucien Aimé Blanc qui écrivait cette anecdote selon laquelle il aurait été sollicité par le SDEC pour lui fournir en fait un mannequin, une femme qui ressemble à Claude Pompidou.
Oui, alors sur cette affaire, le SDEC, il est acquis que le SDEC a reçu l'information de cette informatrice que j'évoquais tout à l'heure et qu'il a fait circuler qu'il y a un des agents de la base Bison qui a rédigé une note parfaitement parfaitement conforme à son rôle, disant voilà, j'ai été avisé de ça. Et la note a été a circulé. Ouais. Et puis à l'intérieur du SDEC, pas à la base Bison, mais au siège à Mortier, il y a eu d'autres protagonistes qui ont essayé de faire monter la mayonnaise. Ouais. Le SDEC n'est pas, enfin, il a peut-être joué un rôle. Technique ou un rôle de ou la base Bison un rôle un peu instrumental dans tout ça, mais l'affaire elle est vraiment une affaire qui concerne le peut-être allez-vous en parler bientôt, mais qui est montée en épingle par les hommes qui autour du général de Gaulle.
Oui, c'est ça. En gros, il y a des gens qui n'aiment pas
ils
Pompidou.
Ils veulent abattre Pompidou.
C'est ça. Alors, dites-nous en mots justement là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce Georges Pompidou qui a quitté Matignon. Il a pas que des amis, Pompidou.
Alors, Pompidou a commis. A commis un jour de janvier 69, il a commis un crime quasiment un lèse-majesté en disant que publiquement, en plus drame supplémentaire, il a dit ça à l'étranger en étant à Rome, en Italie, il a dit bah oui, si un jour le président de Gaulle, le général de Gaulle n'est plus président de la République, oui, je serai candidat pour lui succéder. Et ça a provoqué un cataclysme qui a pousser les hommes qui gravitent, alors c'est tous ces types qui gravitaient autour du sac, autour de,
bien sûr,
de certaines branches du gaullisme, autour des gaullistes de gauche, autour des gens qui avaient combattu l'OS en Algérie, des gens qui, enfin voilà, des gaullistes de stricte obédience, et qui était très remonté contre Pompidou, parce que au ministère de la Justice, il y avait un homme qui s'appelle René Capitan, qui se détestait avec Pompidou, mais de manière...
Oui. Donc là, vous nous éclairez parfaitement hein, là, sur ce système. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut faire la peau de Pompidou, eh bien pourquoi pas ?
Voilà.
Pourquoi pas ? Dominique Labarrière, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, ça va très loin avec Pompidou. Hein, effectivement, c'est l'homme à abattre, hein, c'est ce que dit Jean Guinel. C'est vraiment l'homme qu'on veut tuer et mettre à genoux. Racontez-nous cette histoire. On l'accuse d'avoir déjeuné avec Delon et Marc Anthony,
voilà,
c'est ça ?
C'est-à-dire que le frère de Markovic, Alexander, qui a pour avocat Roland Dumas.
Qui deviendra Roland ministre Dumas. De la Justice
alors que
de
Marc
François
Anthony
Mitterrand.
Aura comme avocat Izorni, extrême droite, la politique se met aussi là-dedans. C'est-à-dire, ils ont fait une rumeur en disant, il y a eu un dîner à 7 personnes dans la cuisine de Delon, avec Delon, sa femme, Pompidou, sa femme, les deux frères Markovic et un 7e personnage qui serait Marc Anthony. Et alors, c'est fait pour quoi, ce dîner ? C'est fait pour qu'il y ait le nom des Pompidou qui entre dans le dossier officiel du juge d'instruction.
Pour qu'il soit cité, bien sûr.
L'avocat dit, sur l'existence de ce dîner, je souhaite que vous entendiez les Pompidou.
C'est un
cheval de Troie. Et Marc Anthony va l'utiliser, va dire, mais moi, je n'étais pas à ce dîner. Et son avocat Izorni va demander la même chose, mais pour dire qu'il n'y a pas eu de dîner. C'est-à-dire on veut faire entrer les Pompidou dans le dossier. Et on est avant l'appel de Rome. Oui. On est avant le 16 janvier.
Ils sont déjà exposés. Et d'ailleurs, Delon dira qu'effectivement, il n'y a pas eu de dîner.
Il n'y a jamais eu de dîner. Ouais. Delon et Pompidou se sont rencontrés deux fois. Une fois à Loucienne, chez Lazareff, et une autre fois, ils se sont croisés pour la sortie du film Paris brûle-t-il. Mais voilà, donc, vous savez, qui veut la peau de Pompidou ? On rentre dans l'irrationnel des haines politiques. Et alors là, c'est un méandre. Vous avez 3 ans d'heure du crime devant vous.
Le bruit et les rumeurs vont finalement s'apaiser, laissant dans leur sillage l'odeur fétide de la calomnie. L'enquête va, elle, se poursuivre car l'assassin de Stevan Markovic n'a toujours pas été identifié. Le 29 août 1975, le juge d'instruction Jean Ferré, qui a pris la suite de son collègue René Patard, décide de renvoyer François Marc-Anthony devant une cour d'assises. Aucun témoin n'a désigné le truand comme étant impliqué dans la mort de Markovic. Les charges essentielles reposent sur la housse de matelas qui a servi à envelopper le corps de la victime. Marc-Anthony venait d'en faire l'acquisition dans un magasin spécialisé. À cette époque, le truand est toujours inculpé, mais libre. Il est sorti de prison 7 ans auparavant, après avoir réglé une confortable caution. Le parquet général et la chambre d'accusation considèrent que les charges sont insuffisantes. François Marc-Anthony ne sera donc pas renvoyé devant les assises pour y répondre de la mort de Markovic. Personne d'ailleurs ne sera jugé. Un an après le scandale, Georges Pompidou est élu président de la République. Il éprouvera un puissant ressentiment pour certaines personnes qui avaient voulu lui nuire, citant notamment le commissaire du SRPJ de Versailles, Jean Sanson, ou le juge René Patard. Pompidou dira avoir en permanence, dans la poche de son veston, un petit carnet où les noms de tous ceux qui désiraient l'abattre avec l'affaire Markovic étaient inscrits, noir sur blanc. Personne ne sait aujourd'hui qui a tué Stevan Markovic. Aucune enquête n'est parvenue à le déterminer, même si François Marc-Anthony, aujourd'hui décédé, aurait longtemps fanfaronné en prononçant cette phrase. Il n'y a que 3 personnes qui connaissent la vérité, Delon, moi et Dieu. Propos provocateurs dont était coutumier le truand, des paroles en l'air totalement invérifiable. Dominique Labarrière, journaliste et ce soir l'un de nos invités de l'heure du crime. Alors l'affaire se termine un petit peu en eau de boudin, on ne saura pas qui a tué Markovic. Et puis il y a ce ressentiment qu'on comprend d'ailleurs, hein, de Georges Pompidou, qui a été visé et qui a été presque mis à terre par cette affaire. Est-ce qu'il en va en vouloir beaucoup personne pendant très longtemps? Il y a des liens aussi qui sont compliqués avec le général de Gaulle.
Des liens qui se sont compliqués avec le général de Gaulle. Il a d'autant plus souffert, Georges Pompidou, que ça n'attaquait pas lui directement, mais son épouse. Ce qu'il comprend, on est beaucoup plus fort pour se défendre soi-même quand on est attaqué que la personne qui est à côté de vous. Les liens entre de Gaulle et Pompidou, c'est fascinant. C'est fascinant. De Gaulle, juste une chose. Allez-y. Quand de Gaulle est investi président de la République en 58, pour aller à l'investiture, il prend une personne dans sa voiture, Georges Pompidou. De Gaulle sait très bien que le seul qui est à peu près à l'envergure de lui succéder, c'est Pompidou. Pompidou a été 6 ans et plusieurs mois Premier ministre, ça s'est jamais vu. Et la fin des accords de Grenelle, la fin des grèves de 68, c'est Pompidou. La chambre introuvable et le raz-de-marée gaulliste aux élections de juin 68, c'est Pompidou. De Gaulle le sait. Et quand Pompidou remet sa démission, et que De Gaulle, dans un premier temps, ne l'accepte pas, puis l'accepte, De Gaulle écrit à Pompidou. Et la dernière phrase, je ne la connais pas par cœur malheureusement, mais les termes veulent dire à peu près ceci. Tenez-vous prêt, Pompidou, à tenir un rôle, une mission nationale. Ça veut dire que la phrase de l'appel de Rome, quand Pompidou dit « un jour, oui, je pourrais être candidat, mais je ne suis pas pressé ouais, », ça il le dit, je ne suis pas pressé, ça ne surprend pas De Gaulle. Ça met en colère l'entourage, mais pas De Gaulle lui-même.
On est d'accord, Dominique Labarrière, sauf que là, Pompidou, il a été déçu par le général De Gaulle.
Très
il dit « j'ai pas été soutenu », en fait.
Il n'a pas été soutenu, il a été très déçu, mais il a porté ça toute sa vie. Tout ce qu'il lui a à sa vie, il l'a porté. Il a été blessé.
Et sa femme aussi, il faut bien le dire. Oui, hein, vous l'avez déjà aussi. Dit. C'est la victime principale.
La principale victime. Et vous vous rendez compte à quel point on a évolué dans les mentalités. Moi, j'ai écrit des tas d'articles là-dessus. C'est parce qu'il y a tout ce mouvement féminin, féministe, aujourd'hui, je suis farouchement antisexiste, que je découvre à l'âge que j'ai que ça a été une victime. Jusqu'à présent, on a considéré, que c'était un outil, un instrument. C'était pas de chance, c'était tombé sur elle. Mais c'est la première victime de cette affaire.
Et ce qui est important à souligner et à dire, et vous avez bien raison de le faire. Jean Guinel, vous êtes également en ligne, vous êtes en ligne, vous, ce soir, dans l'heure du crime, journaliste et spécialiste, notamment des services de renseignement. Est-ce qu'on peut dire, Jean, que c'est une opération de manipulation inédite, cette histoire Markovitch, à ce niveau de l'État, hein, je parle.
Oui, en France, on a eu d'autres affaires d'opérations de déstabilisation sur fond d'affaires de mœurs, on a eu souvent, mais dans la période contemporaine, dans la période moderne, c'est vrai que c'est inédit, on n'a pas vu d'autres choses de cette dimension et aussi répugnante que celle-là pour détruire un homme et une femme dans leur... dans leur vie personnelle, dans leur vie politique, et ça a été c'est d'ailleurs une affaire qui aura des conséquences, d'abord parce que Pompidou en concevra, y compris lorsqu'il sera président de la République, une méfiance farouche à l'égard des services de renseignement.
C'est un point important, ça. Il s'est méfié.
Dès qu'il va en avoir là. Oui. Dès qu'il va en avoir la possibilité, il va remplacer le directeur du SDEC, Eugène Guibaud, et puis il va vraiment, si vous voulez, après il y aura l'affaire des micros du canard qui va pas arranger les choses.
Oui, ça c'est autre chose.
Il nourrit une méfiance viscérale à l'égard des services. Et ça c'est important. Et il nommera à la tête du SDEC un civil pour remplacer Eugène Guibaud, parce que il pensait que les militaires étaient plus enclins. Il pensait en partie que les militaires étaient plus enclins à exécuter des basses œuvres, chose qui n'est pas démontrée dans l'affaire du SDEC. Mais c'est-à-dire. Après l'affaire Ben Barka, ça n'a pas rangé les affaires des services secrets français. Et il a choisi après Alexandre de Maranche, qui sera là pendant 11 ans jusqu'à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand.
Oui, qui assurera la veille, effectivement, avec la confiance de l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire, Jean Guinel, que cette affaire, finalement, c'est une affaire de rumeurs, c'est des fake news avant l'heure? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, évidemment, mais ça a circulé, j'allais dire, presque aussi vite. Les journaux sont emparés de cette histoire.
Ah oui, 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 mais nos confrères de l'époque n'ont pas forcément été très prudents. Ils n'ont pas été suffisamment. Ils étaient.
Il faut que les journalistes reconnaissent de temps en temps leur tort. C'est important.
Bah oui, enfin les leurs et ceux de nos grands anciens.
Bien sûr.
Et puis les nôtres, c'est-à-dire dans ces affaires-là, vraiment, les journalistes sont vraiment obligés de vérifier, de recouper et de ne pas salir, de ne pas calomnier sans preuve.
Et ça n'a pas été vraiment le cas, ce que le moins qu'on puisse dire. Dans cette histoire, Dominique Labarrière, notre deuxième invité dans le studio ce soir de l'heure du crime, vous l'avez évoqué, c'est un dossier gigantesque, hein, ce dossier Markovitch, 500 000 pages de code judiciaire, hein, plus d'une tonne de paperasse dans les archives du palais de justice de Versailles. Ouais. Qu'est-ce qui reste de cette tonne
on aurait aimé un procès. On aurait mis un procès, on aurait pris plein de choses. Mais il y a insuffisance de preuves. C'est vrai que la housse du matelas, un avocat comme Isorni aurait fait venir 18 livreurs qui auraient dit oui, on a l'habitude.
Je pense qu'aujourd'hui, la personne va aux assises.
Voilà.
Je pense qu'aujourd'hui, la personne va aux assises.
Comment ?
Je pense qu'aujourd'hui, la personne serait traduite devant les assises.
Ah oui, aujourd'hui, ouais, oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais vous savez, personne n'a intérêt. On ne sait pas qui faisait chanter Markovitch. On aurait eu les noms, à ce moment-là, ça aurait été une implosion, une explosion. L'explosion. Vous disiez les journalistes, il n'y a pas que les journalistes qui sont responsables. Et je pense que Jean Guisnel sera d'accord avec moi. France Inter, un jour, dévoile l'affaire du dîner dont j'ai parlé, du faux dîner qui n'a jamais eu lieu. Il faut bien que le secrétaire d'État à l'information ait donné son feu vert à l'époque.
Ouais.
C'est pas la presse d'aujourd'hui,
oui,
Joël Leteul. Il a donné son feu vert. Donc, il y a des gens du gouvernement qui, effectivement, comme le dit notre confrère, ont véritablement activé à un certain moment des choses.
On est d'accord. Je voudrais vraiment en un mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'affaire Markovitch ? C'est une tâche sur la République ?
Moi, j'ai... Oui, oui.
En un mot.
Pour moi, c'est le sort fait une femme. Je pense qu'on ne le verrait plus de cette façon-là. Et puis, c'était ce côté James Bond et les pieds nickelés. C'est-à-dire, voilà, c'est à la fois des maladresses et puis un complot qui dépasse ses initiateurs. Quoi.
Merci beaucoup Dominique Labarrière et Jean Guinel d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Markovitch, un scandale d'État, un torrent de rumeurs destiné à salir un homme et une femme et un crime toujours impuni. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.